Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
La dernière fois, nous avons vu ce qu'était donc l'humanité du Messie, et ce soir nous allons voir la conscience que Jésus avait de lui-même. Qu'est-ce que Jésus pensait de lui-même? C'est une question qui agite beaucoup les théologiens aujourd'hui, parce que les théologiens modernistes et incrédules, qui pensent que Jésus n'était qu'un homme comme un autre, essaye de démontrer que Jésus n'a jamais pensé qu'il était le Messie, et à plus forte raison qu'il était le Fils de Dieu. Or, il est certain, quand nous lisons les textes de l'Écriture, que ces derniers nous disent exactement le contraire. La première remarque que nous faisons lorsque nous lisons l'Écriture, c'est que Jésus avait une conscience exceptionnelle de lui-même. Jésus se savait unique. Et Jésus savait, dès son plus jeune âge, ainsi que nous le montre l'épisode de Jésus à 12 ans dans le temple, Jésus, dès son plus jeune âge, savait qu'une relation unique l'unissait avec Dieu. Et il n'hésitait pas à appeler Dieu son Père. Bien sûr, on dira que c'était une expression en quelque sorte assez banale pour un juif que d'appeler Dieu son Père. Nombreuses sont les prières jusqu'à aujourd'hui qui appellent Dieu notre Père. D'ailleurs, n'est-ce pas ainsi que Jésus enseigne ses disciples quand il leur demande « Apprends-nous à prier ?» Et Jésus leur dit « Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. » Par conséquent, c'était normal, Israël était fils de Dieu, et nombreux sont les cas où nous voyons des rabbins, notamment des rabbins, qui en principe avaient des pouvoirs miraculeux. Ce n'était pas rare, c'était à l'époque de Jésus, penser que certains rabbins avaient des pouvoirs miraculeux. Et ces pouvoirs miraculeux venaient d'une relation exceptionnelle avec Dieu. Et ces rabbins miraculeux, comme on les appelait, avaient coutume de s'adresser à Dieu en disant « Père ». Paul aussi rappelle que l'Esprit qui est en nous, l'Esprit d'adoption, nous appelle aussi à nous écrier « Abba, Père ». Donc, les théologiens partent de cette affirmation pour dire qu'en fin de compte, le fait que Jésus à 12 ans puisse avoir appelé Dieu mon Père n'a rien d'exceptionnel et n'implique pas obligatoirement une relation de filiation directe entre Jésus et Dieu. En fait, il est bien certain que Jésus fait toujours une distanciation très grande entre la paternité de Dieu à l'égard des hommes et la paternité de Dieu à son égard. C'est l'un d'entre nous, je crois, qui soulignait ça récemment dans une de ses prédications samedi soir, lorsque, par exemple, devant le tombeau vide, s'adressant à Marie-Madeleine, Jésus lui dit « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. » Il y a donc une différence qui est faite par Jésus entre la paternité de Dieu à son égard et la paternité de Dieu à l'égard de ceux qu'il appelle ses frères. Jésus était conscient d'avoir une relation unique avec le Père parce qu'il était aussi conscient que de cette relation unique avec le Père découlait une autorité unique. Et c'était ce qui caractérisait l'enseignement de Jésus, c'est qu'il enseignait avec autorité et non pas comme les scribes, nous est-il dit. L'expression autorité signifie deux choses en hébreu. D'abord, ce que nous entendons, nous, par autorité, ça veut dire que Jésus parlait avec assurance. Il savait de quoi il parlait. Et à de nombreuses reprises, notamment dans l'évangile de Jean, Jésus souligne cela. « Je suis d'en haut, vous, vous êtes d'en bas. Je dis les choses que j'ai vues chez mon Père. Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais elles viennent du Père, et je les dis comme le Père me les a dites. » Jésus parle des mystères du royaume des cieux comme quelque chose qu'il connaît, qu'il sait. Ce ne sont pas des spéculations théologiques, ce ne sont pas des raisonnements philosophiques ou métaphysiques, mais ce sont des réalités dont il peut rendre témoignage parce qu'il sait que c'est ainsi. Et il peut attester que les choses sont comme il le dit. Mais le mot autorité aussi a un autre sens en hébreu, c'est un pouvoir. Il est certain que Jésus a un pouvoir surnaturel. Les pouvoirs surnaturels de Jésus sont soulignés dans tous les évangiles. Nous aurons l'occasion d'y revenir quand nous parlerons des miracles de Jésus. Mais même les adversaires de Jésus, par exemple, reconnaissent cette capacité de Jésus. Et il y a un pamphlet anti-chrétien qui date du Moyen-Âge, qui a été écrit par les juifs adversaires du christianisme. Je crois qu'on a déjà fait allusion à ce pamphlet-là, ça s'appelle le Toldot Yeshu, ça veut dire l'histoire de Jésus. Et entre autres blasphèmes que contient cet écrit à l'égard de Jésus, il y a cette idée que Jésus avait l'autorité de faire des miracles parce qu'il avait réussi à connaître d'une manière illégale la prononciation du nom de Dieu. Or, justement, cette indication du Toldot est tout à fait intéressante. Parce que, d'une part, donc, cet écrit qui est violemment anti-chrétien, bien évidemment, eh bien, ne discute pas le fait que Jésus ait fait des miracles. C'est tellement évident que c'est inutile d'essayer de le nier. Il essaie simplement d'expliquer d'où venait cette autorité. Et en fond, c'était la question que les pharisiens avaient posée à Jésus, vous savez, au moment de la purification du temple. D'où as-tu cette autorité? Et Jésus ne répondra pas, il dira si vous répondez aussi à la question que je vais vous poser, du baptême de Jean, venait-il de Dieu ou venait-il des hommes? Alors je répondrai aussi à votre question. Alors ils ne répondent pas parce qu'ils ont peur, vous connaissez, et Jésus dit, bon, non plus, je ne répondrai pas. Donc d'où lui vient cette autorité? Réponse. Donc, il a dérobé la connaissance du nom de Dieu. Donc, il y a une reconnaissance implicite qu'il y a une relation exceptionnelle entre Dieu et Jésus. Et voyez-vous, un texte qui est anti-chrétien, finalement, vient confirmer ce que le Nouveau Testament nous dit de Jésus. Il y a aussi un texte tout à fait intéressant qu'on appelle le Testimonium Flaviorum. Je crois qu'on en a déjà parlé. C'est le témoignage de Flavius Joseph sur Jésus. Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, qui avait été au moment de la grande révolte contre les Romains, gouverneur militaire de la Galilée, qui lui-même descendait d'une famille sacerdotale et qui avait été initié chez les Esséniens, d'après ce qu'il dit. Et cet homme, donc, après la chute de Jérusalem et après qu'il ait été fait prisonnier dans les combats qui avaient marqué la grande révolte, qu'il soit passé du côté des Romains avec armes et bagages, pour meubler ses loisirs à Rome, Flavius Joseph a entrepris d'écrire deux livres, enfin un certain nombre de livres, mais en particulier deux, celui qu'on appelle l'histoire d'Israël, l'histoire des Juifs et l'histoire de la guerre des Juifs contre les Romains. Et dans cette histoire des Juifs, donc, il évoque donc l'histoire d'Israël depuis le commencement, pendant tout ce qui est écrit dans la Bible, jusqu'à son temps. Et c'est ainsi qu'il est amené à nous parler d'un certain nombre de personnages évangéliques, Jean-Baptiste d'abord, puis Jésus. Or, le témoignage de Joseph l'a vu sur Jésus est tellement positif que, finalement, Flavius Joseph pratiquement est un chrétien. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le personnage de Flavius Joseph, qui pourtant est loin d'être sympathique, est devenu extrêmement populaire parmi les chrétiens au Moyen-Âge. Et les œuvres de Joseph, les antiquités juives, donc à la guerre des Juifs, ont été, après la Bible au Moyen-Âge, l'ouvrage le plus lu. Et c'est pourquoi un certain nombre de savants modernes ont mis en doute l'authenticité du testimonium Flaviorum, c'est-à-dire qu'ils ont pensé que ces quelques lignes, il y a 15 lignes peut-être, sur Jésus, eh bien, ne sont pas authentiques, ne sont pas de Joseph lui-même, mais elles ont été ajoutées par la main d'un scribe au Moyen-Âge. Vous savez, il y a cette pensée que les scribes qui ont copié au fil du temps les textes anciens, que ce soit les textes bibliques, que ce soit d'autres, étaient des faussaires et que de temps en temps ils donnaient un petit coup de pouce, un petit correctif pour que ça entre plus dans leur rue. Je crois qu'on pourrait analyser un peu plus profondément les affirmations de ceux qui prétendent de telles choses. Je crois que finalement, c'est tout simplement pour cette raison évidente, c'est que nous vivons dans un siècle de tricheurs et de filous, et que les gens qui tiennent ce genre de raisonnement sont eux-mêmes des tricheurs et des filous, et que si eux, ils avaient eu à copier les textes anciens, c'est ce qu'ils auraient fait. Seulement j'oublie une chose, c'est que ceux qui ont vécu dans les générations qui nous ont précédés n'étaient peut-être pas autant filous ni tricheurs que nous. Et peut-être qu'eux ont eu un peu plus de scrupules que n'en auraient eu ces beaux messieurs critiques et théologiens s'ils avaient été à leur place. Et c'est ainsi que des travaux récents ont réhabilité le testimonium Flaviorum, notamment les travaux du professeur Flusser, professeur du Nouveau Testament à l'Université de Jérusalem, qui est parti d'une réflexion de bon sens. Il est évident qu'un homme comme Joseph, qui voulait écrire une histoire du peuple juif, se devait de parler de Jésus. L'événement Jésus, le mouvement de Jésus, à l'époque de Flavius Joseph, était devenu suffisamment important pour que Joseph ne le passe pas sous silence. On était au lendemain des premières grandes persécutions. Néron, quand même. Alors, que Joseph n'ait rien dit sur Jésus, voilà ce qui est tout à fait impensable. Or, justement, il y a d'autres textes qui vont dans le même sens. Et même si, effectivement, le texte tel qu'il nous est arrivé aujourd'hui, Testimonium Flaviorum, comme on l'appelle, n'est peut-être pas mot à mot ce que Joseph a écrit, il est, pour l'essentiel, conclut Flusser, authentique. Et dans ce Testimonium Flaviorum, justement, Joseph rappelle que Jésus a fait des miracles. Et c'est tout à fait amusant de voir aujourd'hui que les théologiens modernes, lorsqu'ils arrivent à cette question des miracles, sont bien embarrassés. Parce que eux, ces messieurs, savent bien, entre guillemets, qu'un miracle, ça n'existe pas. Alors, pourquoi l'Évangile est-il jalonné de miracles? Alors voilà la réponse, je dirais, stupide et bête que ces gens-là donnent. Ils disent parce que les gens qui vivaient à l'époque de Jésus étaient des gens simples, naïfs, parce que bien sûr, ils n'ont pas aujourd'hui, comme aujourd'hui, notre science avec un grand S, ils n'ont pas nos ordinateurs, ils n'ont pas tout ça. Alors c'était des naïfs, des demeurés, des primaires, j'allais dire des primates. Et par conséquent, pour mieux accréditer le personnage de Jésus, les auteurs de l'Évangile ont cru bon d'ajouter tout un ensemble d'événements merveilleux, féeriques, vous savez, pour faire compte de faits, parce que, dans le fond, c'est cette population qui était une population infantile, baignée dans une atmosphère de merveilleux, et il lui fallait ça pour croire, quoi. Mais nous, bien entendu, qui sommes des gens adultes, n'est-ce pas, au XXe siècle, bien, non seulement nous n'avons plus besoin de ce merveilleux-là, mais ce merveilleux-là nous gêne, alors il faut l'expurger. Il faut démythologiser les évangiles. Et c'est toute l'entreprise de l'école de Bultmann, par exemple, si vous avez entendu parler de ce triste personnage. Bultmann qui démythologise à tour de bras, oubliant que peut-être que les gens qui vivaient il y a 2000 ans étaient peut-être pas obligatoirement plus bêtes que nous. Car comme le dit Jacques Ellul, on est aujourd'hui capable de pianoter sur un clavier d'ordinateur, mais si on mettait aujourd'hui des gens comme ça, perdus dans la fin fond de la campagne, ça n'est peut-être même pas capable d'allumer un feu de bois. Alors que les gens qui vivaient il y a 2000 ans, évidemment, eux, n'auraient pas eu ce genre de problème. Alors c'est d'un orgueil incroyable de penser que ceux qui nous ont précédés étaient plus bêtes que nous. Ils n'avaient peut-être pas notre connaissance scientifique et technique, mais sur le plan d'intelligence, de la réflexion, ils n'étaient sûrement pas inférieurs à nous, je dirais peut-être même le contraire. Et si les miracles de Jésus avaient été mythiques, il est bien évident que on se serait attaché à le souligner et l'on aurait eu une controverse contre la réalité des miracles de Jésus. Or, nous l'avons vu même dans les textes qui sont les plus hostiles à Jésus, comme le Toldot, la réalité des miracles de Jésus n'est pas contestée. Donc, Jésus avait une autorité unique. Et cette autorité unique lui venait d'une relation unique avec le Père. Et Jésus employait justement ces miracles pour affirmer ce qu'il était. « Si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, disait-il, croyez au moins à cause de ses œuvres, car les œuvres que je fais, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Pensez bien que si ça n'avait pas été vrai, si les miracles de Jésus n'avaient pas été véritablement des miracles, alors les adversaires de Jésus, qui étaient nombreux, se seraient fait une joie de le relever. Or, rien du tout. Et comme le disent les pharisiens dans l'évangile de Jean après la résurrection de Lazare, il est indéniable que cet homme fait beaucoup de miracles. Je crois que ça, c'est l'évidence historique à laquelle on arrive. Il est indéniable que cet homme fait beaucoup de miracles. Et les miracles de Jésus sont utilisés justement, notamment dans l'évangile de Jean, pour confirmer le message de Jésus. L'évangile de Jean est un texte tout à fait unique et tout à fait intéressant, parce qu'il est construit autour de sept miracles. Sept miracles que Jean appelle des signes. Non pas des miracles, mais des signes. C'est-à-dire des actes extraordinaires, surnaturel, et j'emploie à dessein le mot surnaturel, tout en sachant fort bien qu'il gêne beaucoup aujourd'hui. Et j'expliquerai pourquoi dans un instant. Mais les miracles de Jésus étaient surnaturels, ça veut dire que c'était des actes qui étaient accomplis au-delà des lois de la nature. Et ces miracles, ces actes surnaturels, avait pour but d'éveiller dans le cœur des lecteurs, dans l'intelligence des lecteurs, la foi que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. L'évangile de Jean se termine par cette affirmation, ces choses ont été écrites. Vous savez, d'abord, Jean commence par dire, Jésus a encore fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il n'y en a que sept, en fait, dans l'évangile de Jean. D'ailleurs, le chiffre 7 aussi a un caractère symbolique. Et je ne pense pas que si on voulait les écrire tous, le monde entier serait suffisant pour relater tout ce que Jésus a fait. Mais ces choses ont été écrites, donc c'est sept miracles, pour que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par lui. Donc il y a ici deux choses. Relation directe entre le caractère de Fils de Dieu et les miracles. Et les miracles sont là comme des signes qui attestent la divinité de Jésus. Bon, les sept miracles de l'évangile de Jean sont bien connus. Le premier, c'est l'eau changée en vin à Cana. L'enfant guéri du centurion romain. La guérison du paralytique de Bethesda. La multiplication des pains. Cinquièmement, la marche de Jésus sur les eaux. Sixièmement, la guérison de l'aveugle-né. Et septièmement, la résurrection de Lazare. Voilà, les sept miracles qui sont rapportés dans l'évangile de Jean, le dernier évidemment étant le plus grand, et celui qui va provoquer la mort de Jésus. Donc, Jésus savait qu'il jouissait d'une relation unique avec le Père. Jésus avait aussi conscience qu'il était le Messie. Alors là, on en a beaucoup discuté. Jésus a-t-il affirmé qu'il était le Messie ? Il est indéniable qu'il y a dans les évangiles, et notamment dans l'évangile de Jean, ce que l'on appelle le secret messianique. Jésus a, comment dirais-je, hésité, c'est pas le mot juste, mais il a évité, disons, de proclamer ouvertement qu'il était le Messie. Et lorsque Jésus est ainsi désigné, il a tendance à se dérober. Seulement, ça ne veut pas dire que Jésus ne croit pas qu'il est le Messie, et ça ne veut pas dire que Jésus nie qu'il est le Messie. Seulement, Messie, ainsi que nous allons le voir, était un mot ambigu, piégé. Pourquoi ? Parce que le pays d'Israël, la Judée, était sous la domination romaine. Et le terme Messie, qui est l'abréviation de l'expression Melech HaMashiach, ce qui signifie roi ou un, avait obligatoirement une connotation politique. Le roi, désignation de roi, c'est évidemment un titre politique. Et lorsque Hérode apprend qu'est né le Messie, son premier souci, c'est de le faire disparaître. Pourquoi ? Parce qu'il voit en la personne de ce Messie un rival potentiel. On sait, par les œuvres de Joseph, justement, et par d'autres sources, par le Nouveau Testament lui-même, que les pouvoirs romains traquaient avec la dernière énergie tous les candidats Messie. Et il est question, notamment dans le livre des Actes, dans la bouche de Gamaliel, dans le discours qu'il fait devant Sanhédrin après que les apôtres aient été arrêtés, il cite un certain Judas le Galiléen qui, dit-il, se donnait pour quelque chose. Ce qui est un euphémisme pour dire qu'il se proclamait le Messie. Il fut tué et ses partisans avec lui. Et de fait, Joseph nous parle de cette fameuse insurrection de Judas le Galiléen qui a eu lieu l'année de la naissance de Jésus par ailleurs, c'est-à-dire à l'époque du recensement, parce que le recensement était évidemment un acte de soumission au pouvoir romain, et un certain nombre de patriotes juifs se sont révoltés à cette occasion-là, menés justement par ce Judas le Galiléen qui s'était nommé le Messie. Toujours dans le livre des Actes, le tribun qui a arrêté Paul nous parle de cet Égyptien qui a entraîné un certain nombre de juifs avec lui, en promettant de faire des miracles extraordinaires et que le pouvoir romain est en train de pourchasser. Et le tribun pense que Paul est celui-là, ce candidat Messie. Donc l'expression Messie était une expression ambiguë. Et lorsque Jésus, justement, sera arrêté par Pilate et traduit devant Pilate, justement sous accusation de messianisme, parce que l'accusation de blasphème qui a été porté contre Jésus devant le Sanhédrin juif, Pilate n'en a que faire de ça. que l'on blasphème le Dieu d'Israël, lui, Pilate, ça ne le regarde pas. Et on ne vient pas traduire Jésus devant Pilate pour blasphème. D'ailleurs, le blasphème n'a pas pu être prouvé devant le Sanhédrin. Les témoins ne s'accordaient pas. Et lorsque donc Jésus dit « Je suis le Fils de Dieu », etc., vous verrez le fils de Dieu assis à la droite de la puissance, etc. Bon, le grand prêtre dit « C'est un blasphème », mais il ne le condamne pas. Il n'est pas condamné à mort, pourtant, parce que si Jésus a été condamné à mort pour blasphème, il aurait été lapidé. On lit ça dans le Talmud. Dire qu'on est Messie, pour les Juifs, ce n'est pas un blasphème. S'ils attendent le Messie, il faudra bien qu'un jour il y en ait un qui vienne et qui dit « Je suis le Messie ». Quand 130 ans plus tard, Bar Kokhba s'est proclamé Messie au moment de la deuxième révolte contre les Romains, ce n'était pas un blasphème. Il a été suivi par la majorité du peuple. Alors devant l'échec du procès religieux, on décide d'avoir recours à un procès politique, cette fois-ci devant l'autorité romaine. Et on amène Jésus devant Pilate, disant, il a déclaré qu'il était le roi des Juifs, le roi des Juifs, le Messie. Et Pilate interroge Jésus, dit, est-ce que tu es le roi des Juifs? Et Jésus, justement, va dissiper ici toutes les équivoques qui pourraient rester sur ce thème. Tu le dis, je suis roi, mais pas comme tu penses. Parce que moi, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu, je suis né dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et vous savez, Pilate est tout à fait décontenancé par cette réponse de Jésus. Et il se dit, alors à ce moment-là, si c'est ça, ce n'est pas un agitateur politique. Et si ce n'est pas un agitateur politique, j'ai aucune raison de l'arrêter. Je vais le relâcher. Et c'est tout de la suite, les membres du Sanhédrin qui insistent, enfin vous connaissez le récit. Donc, Jésus ne nie pas qu'il soit Messie, mais Jésus affirme être un Messie d'une nature différente de ce que l'on pense généralement quand on emploie cette expression-là. Jésus n'est pas quelqu'un qui est venu contester le pouvoir romain. Et comme évidemment c'est impossible d'expliquer ça aux foules, Jésus se réfugie dans ce qu'on appelle le secret messianique. Il nous a dit, par exemple, que les démons lui rendent témoignage. Les démons disent, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Et la Bible dit, Jésus les fait taire. Il ne voulait pas qu'ils le disent. Ah, c'est formidable, les démons confessent. Ah oui, mais les démons savaient ce qu'ils faisaient. Ce qu'ils voulaient, c'était faire arrêter Jésus par le pouvoir romain. Et c'est pourquoi Jésus les faisait taire. Il y avait aussi les malades qui étaient guéris. Et nous disons à plusieurs reprises que quand des malades guéris confessent Jésus comme Messie, la Bible dit Jésus lui a interdit sévèrement de dire qu'il était le Messie. Et souvent d'ailleurs cette interdiction n'est pas respectée, et notamment c'est le cas du possédé de Gadara qui va proclamer partout dans toute la Décapole que Jésus est le Messie. Et Jésus interdit sévèrement qu'on dise qu'il est le Messie. Et quand il demande justement à ses disciples ce que l'on pense de lui et que Pierre fera la fameuse déclaration « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant », nous retrouvons la même interdiction. Jésus leur interdit de dire autour d'eux que lui, Jésus, est le Messie, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et là, les disciples s'interrogent, savoir ce que ça veut dire. Et pour justement couper court à tout équivoque, parce que Pierre vit dans cet équivoque-là, justement, Jésus leur annonce que le Messie doit souffrir, mourir, être jeté, et ce sont les trois annonces de la Passion qui troublent profondément les disciples. Alors Jésus n'est pas le Messie auquel il pense. Il est bien le Messie, mais un Messie différent. Et son royaume, encore une fois, n'est pas de ce monde. Et c'est pourquoi, quand il parlait de lui-même, Jésus employait un terme qui était ambigu pour ceux qui l'écoutaient, c'était volontairement qu'il faisait ainsi. Il employait l'expression « le Fils de l'homme ». Bar Enoch. certainement. Qu'est-ce que c'était que cette expression-là? Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Eh bien, d'abord, cette expression peut signifier en hébreu, jusqu'à aujourd'hui, en hébreu moderne, un homme, tout simplement. Par exemple, pour dire cet homme-là, on dira aujourd'hui Aben Adam Azé. Ce fils d'homme-là, ce fils d'Adam, littéralement. Ben Adam, c'est le fils d'Adam, donc un homme. Et c'est pourquoi, par exemple, certains traduisent, avec une faute grave, à mon sens, mais certains théologiens le font, quand ils nient justement que Jésus se soit proclamé le fils de Dieu. Vous savez, dans l'épisode du paralytique de Capernaum, la foule, donc, quand elle a vu le miracle, s'en retourna glorifiant Dieu parce qu'il avait donné aux hommes une telle puissance. Et Jésus vient de dire auparavant ceci: Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, dit-il s'adressant au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et les théologiens modernes ont remarqué qu'on peut traduire « afin que vous sachiez que l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés ». C'est une traduction quasi blasphématoire. Mais au sens grammatical strict, ça pourrait être. Mais c'est certain que ça ne cadre pas du tout avec le contexte. Jamais, ni l'Ancien Testament, ni le Nouveau Testament, ne laisse supposer un seul instant que Dieu ait donné aux hommes le pouvoir de pardonner le péché, les péchés. Et encore une fois, cette expression de Jésus, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, manifeste une relation unique entre lui et son Père. Car qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul, disent les pharisiens, avec raison. Et Jésus ne les reprend pas sur ce plan-là. Mais Dieu a donné au Fils de l'homme le pouvoir de pardonner les péchés. C'est donc, conclusion, que le Fils de l'homme est de nature divine. Et justement, quand il parle du Fils de l'homme, ses adversaires lui demandent, mais qui est ce Fils de l'homme? Bien, pour comprendre justement cela, il faut se rapporter au chapitre 7 du livre de Daniel. Et la vision des quatre animaux terribles qui représentent les quatre empires qui se succèdent sur la surface de la terre pendant toute la durée de l'histoire, jusqu'à la venue de l'Antichrist, si vous voulez. Et après que le quatrième animal, le plus terrible, ait été tué, nous voyons Daniel voit dans le ciel qu'on amène des trônes. Sur ce trône s'assied l'Ancien des Jours. Et c'est alors que vint sur les nuées du ciel quelqu'un qui avait l'apparence d'un Ben Adam, d'un fils d'homme, d'un Bar Enosh, parce que le texte est en araméen là. C'est un des rares textes de l'Ancien Testament qui est écrit en araméen. Donc un fils d'homme. Bien sûr, dans un premier temps, il y a un contraste dans le contexte entre les bêtes, les animaux féroces, les brutes, en quelque sorte, que sont les empires humains, et puis finalement, l'élu de Dieu qui, lui, est un homme. Il y a quelque chose d'humain qu'il n'y a plus dans les empires humains. Mais en même temps, c'est un homme, un simple homme. On lui donnera la domination, la puissance, son règne est une domination éternelle, son pouvoir ne cessera jamais, etc. Ça se termine là-dessus. La vision de Daniel se termine là-dessus. Et très vite, cette expression « fils d'homme » a été considérée comme s'appliquant au Messie. Au Messie. Or, il s'assied à la droite de Dieu, ce mystérieux fils d'homme, et il va exercer le jugement. Être assis à la droite de Dieu, c'est juger. Juger, c'est deux sens, c'est diriger. Les juges, ce sont des dirigeants, des leaders. Le livre des juges, n'est-ce pas ? Les juges ne sont pas des gens qui exercent une charge juridique, comme l'indique notre expression juge aujourd'hui, mais ce sont des des leaders charismatiques, en quelque sorte, et politiques. Donc, le Fils de l'homme, manifestement un roi. Et à l'époque de Jésus, on voit ça dans les textes de Qumran en particulier, on avait fait le rapprochement entre ce texte et le psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et qui était ce Seigneur auquel le Seigneur s'adresse? Le Fils de l'homme de Daniel, disent les textes de Qumran. Et le psaume continue, le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchizedek. Et c'est là justement qu'apparaît dans la figure de Melchizedek comme image du Messie. Le Messie sera un homme qui sera à la manière de Melchizedek. Et le Fils de l'homme n'est autre que ce personnage dont Melchizedek était l'annonce, dont Melchizedek était l'image, et qui en fin de compte est plus grand que David. Et c'est très intéressant, si vous reprenez cette expression, ça aide à comprendre par exemple une controverse de Jésus avec les pharisiens qu'on trouve justement dans les derniers chapitres des évangiles, au moment après l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus interroge ses adversaires et lui demande « Qui pour vous est le Messie? De qui est-il le Fils ?» Et les pharisiens répondent « De David ». Alors, dit Jésus, comment se fait-il que David, inspiré par le Saint-Esprit, l'appelle mon Seigneur? Car il est dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, c'est toi mon bras, ce que je fasse, c'est tes amis de marcher plus. Donc là, justement, l'expression le Fils de l'homme nous aide à comprendre cela. Le Fils de l'homme, c'est une expression ambiguë qu'on ne trouvait que dans certains milieux, qui indiquait justement le Messie. Le Messie dans son élection, le Messie dans son pouvoir à la fois de roi et aussi de juge des derniers jours. Vous savez, Jésus dit ça aussi à ses disciples. Au renouvellement de toutes choses, vous aussi, qui avez participé à mes épreuves jusqu'au bout, vous m'avez suivi jusqu'au bout, et bien vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. On retrouve dans l'Apocalypse aussi cette image du Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel, comme dans Daniel, n'est-ce pas? Et l'ascension aussi, où Jésus est recouvert par la nuée, eh bien, montre que Jésus est vraiment le Fils de l'homme qui a été annoncé par Daniel, et que c'est sur les nuées du ciel qui viendra au dernier jour, toutes les nations de la terre se lamenteront sur lui, car tout œil le verra, dit le livre de l'Apocalypse. C'est la même vision du Fils de l'homme qui revient. Ainsi, parler du Fils de l'homme, c'était pour Jésus parler à la fois, c'est vrai, de son humanité, mais c'était aussi parler de sa divinité, c'était les deux choses. Parce que le Fils de l'homme, il est donc plus grand qu'un homme. Si David s'adresse à lui en l'appelant son Seigneur, comme le dit Jésus très logiquement, en faisant l'exégèse du psaume 110, eh bien c'est qu'il est d'une nature supérieure à la nature humaine. Or c'est justement ce que ses adversaires ne veulent pas reconnaître, et c'est pourquoi ils n'ont aucune réplique. Donc, il est certain que Jésus ici avait conscience qu'il était le Messie. Et quand Pierre lui discerne ce titre, il l'accepte. Quand les malades guéris lui discernent ce titre, il l'accepte, même s'il leur dit de ne pas le répandre dehors. C'est le secret. Un secret qui n'est partagé que par un petit nombre d'élus, ceux qui sont capables de le comprendre. C'est le secret messianique. Il faut que cette réalité soit tenue secrète jusqu'à l'heure venue, l'heure vers laquelle Jésus est en marche. Parce qu'il ne faut pas que Jésus meure avant l'heure qui a été fixée par Dieu. Et à plusieurs reprises, on trouve cette expression dans les évangiles, son heure n'était pas encore venue. Alors ses adversaires ne purent pas mettre la main sur lui. À plusieurs reprises, ses adversaires disent, dis-nous ouvertement si tu es le Messie. Jésus ne répond pas ouvertement, il dit, je vous l'ai déjà dit. Et les œuvres que j'accomplis rendent témoignage de moi. Concluez vous-même, en quelque sorte, c'est cela. Mais quand l'heure sera venue, alors là, ce sera différent. Et un jour vient l'heure. C'est le texte de Jean 13. la veille de la fête de Pâques, Jésus, qu'il savait que l'heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens, etc. Et dans la prière sacerdotale, Jésus s'adresse à son Père en disant, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie. » Alors là, on peut dire qu'il est le Messie. Et le jour de la Pentecôte, c'est la proclamation ouverte que toute la maison d'Israël, dit Pierre, sache que Dieu a fait Messie et Seigneur ce Jésus que vous avez crucifié. Là, c'est clair. Et maintenant, que l'heure est venue, que Jésus est mort et ressuscité, alors on peut dire ouvertement ce qu'il était. Parce qu'il a été proclamé Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, comme dira plus tard l'apôtre. Alors, Jésus a accepté ce titre. Et en même temps, dans une signification différente, certes, de celle qu'on donnait généralement à ce terme, mais pas si différente que ça, en fin de compte. Car dans la tradition d'Israël, le Messie, c'était deux choses. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs Messies parce qu'on essaie de, comment dirais-je, d'harmoniser des textes de l'Ancien Testament qui sont contradictoires, qui semblent contradictoires au sujet du Messie. À Qumran, par exemple, on n'attendait pas un Messie, mais on attendait trois Messies. Le Messie royal, ça veut dire le Messie fils de David. Donc, le Messie qui devait exercer un pouvoir politique. Le Messie sacerdotal, à la manière de Melchizedek, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui était le prêtre, le Messie prêtre. Et puis, le Messie prophète, prophète des derniers jours, qui avait été annoncé par Malachie. Ce prophète, vous savez, c'est ce que disent les pharisiens quand ils vont vers Jean. Ils disent, « Es-tu le prophète ?» Et Jean dit, « Je ne le suis pas. » Alors vous allez dire, « Mais Jean, il est trop modeste. » Il était. L'Élie qui devait venir, c'est ce que Jésus dit de lui, oui. Mais il n'était pas le Messie prophète. Or, ce que les pharisiens lui demandent, c'est « Est-ce que tu es le Messie prophétique ?» Et Jean répond « Non, ça je ne le suis pas. » Et là, justement, l'Épître aux Hébreux, eh bien, résout ce mystère. L'Épître aux Hébreux reprend, justement, cette idée des trois Messies qu'il y avait dans le judaïsme à cette époque-là, dit Jésus et les trois. Jésus est à la fois le Messie royal, fils de David. Jésus est à la fois le Messie sacerdotal, sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Et Jésus est aussi le Messie prophétique. Il est tout cela en lui-même. Dans la tradition juive jusqu'à aujourd'hui, ça c'est intéressant à savoir, est restée cette idée qu'au temps de la fin, il y aura deux Messies qui viendront. Le premier, c'est celui qu'on appelle... Il y a plusieurs noms qui lui sont donnés, il y a beaucoup de noms qui sont donnés à ce Messie-là, mais le plus commun, c'est Messie, fils de Joseph. Et on se base sur un texte qu'on trouve dans le livre d'Amos, le dernier chapitre du livre d'Amos, qui dit ceci. « Dans ce temps-là, je reviendrai et je relèverai la tente de Joseph qui a été renversée. » La tente de Joseph. Et dans le Talmud, il y a cette question qui est posée à un rabbin. Pourquoi appelle-t-on le Messie Bar-Naflé ? Ça veut dire le fils qui est tombé, ou l'homme qui est tombé, si vous voulez. Le fils de la chute. Parce que justement, il est dit de lui, et là, on cite le texte d'Amos, je relèverai la tente de David qui est tombé. Donc, au temps de la fin, le Messie, fils de Joseph, tombera devant ses ennemis. Et sera mis à mort. Et c'est en lui que s'accompliront toutes les prophéties qui concernent le Messie souffrant. Ésaïe 53, qui à cette époque-là était considéré comme un texte messianique, même si aujourd'hui en judaïsme il ne l'est plus. Mais il ne l'est plus aujourd'hui en judaïsme pour une seule et simple raison, c'est parce que justement les chrétiens l'ont utilisé. Alors par réaction antichrétienne, on a donné un autre sens à Ésaïe 53. Mais Ésaïe 53, manifestement, à cette époque-là, on trouve ça même dans le Talmud. On trouve ça jusque chez Rashi, au XIIe siècle. Rashi, qui était donc un des rabbins plus célèbres, un français d'ailleurs, qui est originaire de Troyes, était vigneron à Troyes, dans le civil. Il était rabbin, César Perlif, un des plus grands rabbins qui ait jamais vécu, un commentateur extraordinaire de la Bible. Et Rashi, donc, écrivait déjà donc, au XIIe siècle, ici, au plein, fin du Moyen-Âge, que Ésaïe 53 se rapportait au Messie, fils de Joseph. Messie, fils de Joseph, doit être mis à mort pour que puisse venir le royaume de Dieu. Et quand Messie, fils de Joseph, qu'on appelle aussi le lépreux. Pourquoi ? Alors là, il y a la question d'Antanou. Pourquoi Messie, fils de Joseph, doit-il être lépreux ? Parce qu'il est écrit de lui dans Ésaïe 53, c'est là qu'on voit justement qu'Ésaïe 53 était un texte considéré comme messianique à cette époque-là, il est dit ceci, il a été considéré, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, or frappé de Dieu peut se traduire aussi par frappé de la lèpre. Et c'est pourquoi il est dit, Messie, fils de Joseph, sera frappé de la lèpre. Messie, fils de Joseph, s'appelle aussi Menachem, le consolateur. Parce que justement, par sa mort, il apportera la consolation d'Israël. Il y a plusieurs noms comme ça, toutes sortes, toute une spéculation sur Messie, fils de Joseph. Et quand Messie, fils de Joseph, aura été retranché, alors le Messie, fils de David, lui viendra. Et c'est lui qui restaurera le royaume d'Israël, c'est lui qui accomplira toutes les prophéties qui concernent le Messie glorieux, le Messie vainqueur. Or, il est clair que lorsque Jésus se proclame Messie et qu'il explique la conception messianique qui est la sienne, Jésus applique en ce qui le concerne les textes relatifs justement qu'on employait à une époque ultérieure jusqu'à aujourd'hui au Messie fils de Joseph. Sans exclure pour autant ce qui concernait le fils de David. Il est les deux. Et justement l'erreur d'Israël jusqu'à aujourd'hui, c'est de croire qu'il y aura deux messies. Il y aura un messie. Il y en a un seul. Mais qui accomplira les deux séries de prophéties qui sont contradictoires et lors de sa deuxième venue, les prophéties qui concernent le fils de David, le messie glorieux. Et c'était là, manifestement, la conception messianique que Jésus avait. On prend tous les textes où Jésus parle de sa messianité, il est clair que c'était ainsi qu'il l'a concevé. Jésus n'attendait pas un autre Messie que lui-même, contrairement à ce qu'affirment aujourd'hui certains théologiens. Jésus parlait de son retour. Jésus parlait du rétablissement de toutes choses au dernier jour. Jésus parlait de ce temps où lui, fils de l'homme, il serait assis sur le trône. Et toutes les nations seraient rassemblées devant lui, mettrait les uns à sa droite, les autres à sa gauche, etc. Vous connaissez les textes. Seulement, c'était dans un deuxième temps. Dans un premier temps, il était venu non pas pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Au dernier jour, alors il exercera le jugement. Et Dieu a remis tout jugement entre ses mains, dira-t-il. Il est certain que Jésus n'envisageait pas son retour comme quelque chose de proche. De nombreuses paraboles marquent que Jésus s'attendait à ce que son absence soit longue. Et c'est ainsi qu'il évoque l'histoire du roi qui part pour un voyage, pour un long voyage, pour recevoir l'autorité royale. Il délègue à ses serviteurs, donc 5 talents, vous connaissez la récit. Jésus parle de ce maître, de ce serviteur qui se met à s'endormir, à battre ses compagnons, à s'enivrer, parce qu'il dit « Mon maître tarde à venir ». Nous connaissons aussi la parabole des vierges sages, des vierges folles, qui s'endorment justement parce que l'époux tardait. Manifestement, Jésus a conscience que son absence sera longue, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Au dernier jour, il reviendra, et il reviendra d'une manière différente de ce qu'a été sa première venue. Sa première venue a été comme en secret, la deuxième venue sera publique, et toutes les nations le verront. Ce sera une venue pour le jugement, et ce sera une venue pour le règne, ce sera une venue pour accomplir justement toutes les prophéties messianiques qu'on trouve dans Daniel, qu'on trouve dans le psaume 110, et qu'on trouve dans tous les autres textes qui sont relatifs justement au Messie dans l'Ancien Testament. Par conséquent, il y a la conscience pour Jésus d'être un être unique. Non seulement Messie, mais Fils de Dieu. Et en cela, Jésus ne va jamais douter un seul instant de ce qu'il est, ni de sa mission. Jean-Baptiste, oui, il va douter. Et vous savez comment Jean-Baptiste, dans sa prison, fait venir des messagers vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Mais même dans son agonie, Jésus ne doutera jamais de ce qu'il est. Il sait qu'il est le Fils de Dieu. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, il est troublé jusqu'à la mort, son âme est troublée jusqu'à la mort, mais pas sa conscience, pas la conscience de ce qu'il est. Il est conscient que ce lien unique continue à l'unir à Dieu. Et même lorsqu'il est sur la croix, n'est-ce pas, il peut dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Il est encore conscient que Dieu, même dans ce moment-là, reste son Père et qu'une relation unique le lie à lui. Et c'est pourquoi Jésus peut avoir des exigences exorbitantes vis-à-vis de ses disciples. Jésus demande un amour total, une obéissance inconditionnelle, un renoncement total pour le suivre. Et les affirmations de Jésus sont si incroyables, notamment l'évangile de Jean, qu'elles provoquent une division parmi ceux qui l'écoutent. Parce qu'en face de Jésus, de ces affirmations, ne peut pas rester neutre. On est obligé de prendre position. Ou bien alors, Jésus est le plus grand menteur et le plus grand imposteur qui ait jamais vécu, pour oser dire des choses pareilles, comme le dit ses adversaires, effectivement, un blasphémateur, il égare la multitude. Il dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il faut être prêt à renoncer à tout pour le suivre, etc. Ou bien ce qu'il dit est vrai. Il n'y a pas de milieu. Ou bien c'est totalement vrai, ou c'est totalement faux. Il faut choisir, il faut se déterminer. Et quel élément qui permet de se déterminer? Jésus le dit, les miracles que je fais. Les miracles que je fais, c'est ça qui témoigne de moi, qui rend témoignage de moi. Si vous ne croyez pas à cause de mes paroles, croyez au moins à cause de ses œuvres. Et autrement dit, Jésus conclut, si on veut être vraiment honnête, c'est ce qu'on conclut en les apôtres aussi après, quelqu'un qui veut être vraiment honnête, qui veut prendre en compte sans passion, en toute objectivité, ce qu'est Jésus, eh bien, il arrive automatiquement à la foi. Car jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a eu suffisamment d'audace, même les plus grands imposteurs, même les plus grands dictateurs, les fous les plus orgueilleux, les Hitler, n'ont jamais osé dire qu'ils étaient fils de Dieu, qu'ils venaient de Dieu, qu'ils étaient venus du ciel, etc. Jamais personne n'a osé dire une chose pareille. Alors, ce sont des paroles comme on n'en a jamais entendu. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais en même temps, jamais homme non plus n'a fait les œuvres qu'il a faites, jusqu'à ressusciter des morts. Et comme dit Nicodème, c'est la logique. Nous savons que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc tu es un docteur venu de Dieu. Donc ce que tu enseignes vient de Dieu. Et ce que tu enseignes sur toi vient de Dieu. Voilà, la conclusion est celle-là. Or, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Et si vous croyez cela, vous aurez la vie par lui. Car celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père, mais justement celui qui nie le Fils, c'est l'Esprit d'Antichrist, qui est aujourd'hui dans le monde. Jésus a donc ses exigences vis-à-vis de ceux qui le suivent. Troisièmement, Jésus a conscience d'être sans péché. Ça, c'est aussi quelque chose qui ressort nettement des paroles, de l'enseignement, du comportement de Jésus. Jésus a conscience qu'il n'a jamais péché. Il a une haine totale du péché. Nous verrons ça quand nous étudierons la sainteté de Jésus. Et en même temps, nulle part, Jésus ne peut être pris en faute. Jamais. Ses adversaires essayent de trouver des failles dans sa vie. Ils ne peuvent pas. Et à plusieurs reprises, Jésus les met au défi. Allez-y. Qui de vous me convaincra de péché? Et nous trouvons la même chose qu'avec ces miracles. S'il y avait eu la moindre faille dans sa vie, eh bien, vous pensez bien que ses adversaires se seraient fait une joie de lui ressortir. Mais là, rien. Et même quand vient l'heure de son procès, ils ne trouvent rien. Ils ont beau même faire venir des faux témoins. Les faux témoins sont convaincus d'être des faux témoins parce qu'ils s'empêtrent dans leur faux témoignage. Ça ne tient pas. Jésus n'a jamais demandé pardon. Nulle part ne va nous demander pardon, ni à Dieu, ni aux hommes. C'est pas par orgueil, mais on sent que c'est naturel chez lui. Cette conscience d'être sans péché. Donc, ici, relation unique. On pourrait dire, Jésus pouvait-il pécher? On peut discuter longtemps. Le fait est qu'il n'a pas péché. C'est ça la chose essentielle. Il pouvait affirmer, je fais toujours la volonté de mon Père. Et à cause de cela, il affirme son autorité dans le ciel et sur la terre. Alors là, il y a une petite parenthèse que je voudrais ouvrir justement au sujet de ces miracles de Jésus. J'ai employé tout à l'heure le mot surnaturel. En disant que c'était des actes qui allaient à l'encontre des lois de la nature. Et c'est en cela que ce sont des miracles. Le cas le plus typique est celui de l'aveugle-né, auquel Jésus, en quelque sorte, a redonné des yeux. Ou bien Lazare, qui était dans le tombeau déjà depuis plusieurs jours. Et on sait comment, dans la chaleur du Moyen-Orient, la décomposition des cadavres est rapide, tellement qu'en général, on est obligé d'enterrer les gens le jour même du décès, sinon c'est devenu impossible. Et Marthe déclare, il sent déjà. Donc il y a déjà putréfaction, il y a déjà décomposition du cadavre. Il y a un miracle de recréation. Puis le plus grand des miracles, bien entendu, c'est la résurrection de Jésus lui-même. Ce sont des réalités qui défient les lois de la nature. Et ça, c'est important parce que nous sommes aujourd'hui dans un temps où même dans les milieux chrétiens, on nie le caractère surnaturel du miracle. Même dans les milieux charismatiques, j'ai entendu des frères dire qu'ils récusaient le mot surnaturel. Ça veut dire que, pour ces gens, on ne nie pas que Jésus ait fait des œuvres qui sortent de ce qui est habituel. Mais on entend de plus en plus aujourd'hui prétendre qu'en réalité, les miracles de Jésus, comme ce qui se passe dans le domaine charismatique aujourd'hui, finalement, ce n'est que le respect d'un certain nombre de lois naturelles scientifiques qui ne sont pas encore étudiées, qui ne sont pas encore connues, mais que lorsque l'on connaîtra les lois psychiques et psychologiques, etc., qui régissent par exemple le domaine de la maladie, le domaine psychosomatique, ou le domaine de la clairvoyance, ou le domaine, etc., alors on comprendra qu'en fait, ce que nous appelons miracles ne sont pas des miracles, mais des actes qui ne sont pas courants simplement, qui ne sont pas habituels, mais qui ne violent pas les lois de la nature. C'est une hérésie majeure, c'est une des hérésies de ce temps, une des grandes hérésies de ce temps, et certainement demain, on va dire dans les années qui viennent, cette hérésie-là va se développer. Je faisais allusion, je crois, il y a quelques jours, à ce livre de Yung Gi-shau, qui s'appelle La quatrième dimension. Yung Gi-shau, un des pasteurs coréens qui a une église de, je ne sais pas, plusieurs centaines, 500 000 membres, je crois, il en est arrivé à 500 000 membres aujourd'hui. Bon, bientôt il y aura plus de membres dans son église qu'il y en aura dans toute la Corée entière, enfin, de toute façon. Ce Yung Gi-shau vient d'écrire un livre qui s'appelle La quatrième dimension. Et voilà, en gros, la doctrine que défend Yung Gi-shau dans ce livre, il dit ceci. Je me suis rendu compte qu'en Corée, dans l'Orient, de manière générale, les sorciers, enfin, tout ce que vous voudrez, tous les gourous qui peuplent ces régions-là, ont des miracles, ont des guérisons, etc., plus facilement que n'en ont les chrétiens. Et que nous, quand nos églises ont prié pour des guérisons, etc., les gens n'étaient pas guéris aussi facilement que ceux qui allaient voir les sorciers et tous ces gens-là. Alors, ça l'a interpellé, il s'est posé des questions, il a prié, et Dieu lui aurait révélé ceci. Enfin, je dis aurait, bien sûr, parce que, enfin, ce serait Dieu qui l'ait fait du tout. Il dit, voilà, il y a un domaine, n'est-ce pas, qui est ce qu'il appelle la quatrième dimension. Il y a trois dimensions, la longueur, la largeur, la hauteur, puis une quatrième dimension qui est une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, c'est une dimension où, n'est-ce pas, la puissance, notre cerveau, en quelque sorte, a des puissances qui sont inconnues. Et par exemple, si, n'est-ce pas, nous utilisons toutes les potentialités de notre cerveau, nous pouvons entrer dans la quatrième dimension et avoir puissance sur les trois autres. Ça veut dire, pratiquement, ça veut dire ceci. Il raconte ça d'une histoire. C'est grotesque, mais en même temps, ça, c'est dangereux. Il raconte comment, au début de son ministère, c'était juste après la guerre de Corée, dans les années 50, la Corée était ruinée par la guerre, tout ça, il avait besoin d'un vélo, il était pasteur dans une petite église à cette époque-là, il avait besoin d'un vélo pour aller se déplacer, puis il aurait bien voulu aussi avoir un bureau, il avait des caisses à savon qui lui servaient de bureau, tout ça, c'était inconfortable. Alors il a prié, Seigneur, envoie-moi un vélo et un bureau. Puis il priait, puis rien venait. Puis un jour, le Seigneur lui a révélé cette histoire de quatrième dimension, et lui a dit, mais tu vois, il faut que tu te représentes ce vélo, il faut que tu considères que ce vélo, tu l'as déjà reçu. Il faut que tu le vois devant tes yeux, n'est-ce pas ? Et comment tu veux ce vélo ? Ben, rouge, et puis comme ci, comme ça, avec une selle, des roues blanches, des pneus blancs, très bien. Mais tu te représentes ce vélo, et tu es enceint du vélo. Ah oui, ça c'est grotesque, quoi. Alors, il a prêché, le dimanche suivant, il a dit, Seigneur, et il a dit, c'est son église, il a dit, voilà, Seigneur m'a donné un vélo et un bureau. Alors, c'est formidable, on pourrait voir ton vélo. Il dit non, on ne peut pas le voir parce qu'il est dans mon ventre. Et j'en suis enceint. Ça fait rire. Et puis il est venu un jour, évidemment, où quelqu'un lui a fait cadeau du vélo en question, etc. Alors il a fait tout ça. Alors il avait une petite église de quelques dizaines de personnes. Et puis alors il a construit une grande salle de plusieurs centaines. Et puis alors il est allé employer la quatrième dimension, il est entré dans son église vide, devant les chaises vides, il a commencé à prêcher devant les chaises vides, il a dit, voilà, je vous remercie d'être venu si nombreux ce matin, etc., et puis vous qui êtes ici, vous qui êtes là, vous êtes malade, le Seigneur vous guérit, etc., et puis dans les semaines qui ont suivi, son église s'est remplie, puis sa vision, ce qu'il avait imaginé, s'est accompli. Bon, c'est grotesque, mais c'est dangereux. Parce que là, on entre dans la puissance de l'imagination. C'est par l'imagination qu'on va accomplir les miracles. Les miracles ne sont plus des miracles, ce sont des lois naturelles. Il y a des lois naturelles qui dépendent de notre cerveau, qui dépendent plus de Dieu, mais qui dépendent de notre cerveau. Bon, ben ça, vous prenez n'importe quel livre de magie, que ce soit la magie moderne, que ce soit la magie indienne ou chinoise, etc., c'est exactement ce que vous trouvez. Et c'est pourquoi Shaw dit, bien, Jésus a fait des miracles par ce moyen-là. Et en Amérique, ça couvre ce genre de doctrine. Vous pouvez être sûr que ça a lieu en France. C'est une hérésie dangereuse. C'est une des plus graves hérésies que l'on puisse faire à notre époque moderne. Les miracles de Jésus, les miracles de Dieu, sont des miracles surnaturels. Ça veut dire qu'ils défient les lois de la nature. Autrement, on manipule Dieu. Et Dieu ne se laisse jamais manipuler. Alors, une dernière question, avant de conclure. Comment cette conscience de Jésus lui est-elle venue? Comment? Les mystères. Mais il est certain que Jésus, qui a grandi comme n'importe quel enfant, a été amené petit à petit, au fur et à mesure des étapes de sa croissance, à prendre conscience de ce lien unique qui l'unissait à Dieu. À prendre conscience de l'étrangeté du comportement de ceux qu'il voyait autour de lui, du péché qu'il constatait chez les siens et auquel il était totalement étranger. Et petit à petit, dans la prière, dans l'étude de la parole de son Père, dans le temple de Jérusalem, prendre conscience qu'il venait du Père. Et à partir de cette évolution, de cette croissance, cette conscience de Jésus ne l'a jamais abandonné pendant toute sa vie, même pendant les plus grandes crises de son existence. Jésus était pleinement conscient d'être fils de Dieu, il était pleinement conscient d'être le Messie promis à Israël, il était pleinement conscient d'être sans péché. Il était pleinement conscient aussi d'être subordonné au Père. Ça aussi, c'est à souligner. Le Père est plus grand que moi. Il sait le jour de la venue du Fils de l'homme, alors que lui, Jésus, ne le sait pas dans son incarnation comme il l'a montré. Mais il est conscient aussi, n'est-ce pas, que lui et le Père sont un. Il le dit, il le proclame. Et le reconnaître, eh bien, c'est le chemin du salut. Voilà.